Europe Midi, Simon Rubin.
Midi 30, tout bientôt. Bienvenue à toutes et à tous dans Europe Midi. Si vous n'avez pas la chance d'être en vacances, eh bien on vous emmène prendre un peu l'air sous les températures caniculaires de l'Aude. On traque l'ombre et on se prélasse dans les piscines. Stress test pour le pass sanitaire avec le week-end du 15 août. Les contrôleurs SNCF espèrent que tout se passera bien et que les passagers réticents au pass sauront garder leur calme. Nous irons en Martinique, reportage à suivre, pour voir si les présences des deux ministres aux Antilles, Olivier Véran et Sébastien Lecornu, ont donné envie aux habitants de se faire vacciner. Et puis deux histoires de femmes puissantes, Valériane Ayayi, médaillée de bronze au basket aux Jeux avec l'équipe de France, et qui raconte qu'elle était enceinte depuis plusieurs mois pendant la compétition. Et Britney Spears, la star de la pop, qui sort peu à peu de l'emprise de son père après des années de bataille juridique. Mon invité, Nicolas Offenstadt, après le journal, historien, il viendra nous raconter ce qu'il reste du mur de Berlin dont la construction avait lieu il y a 60 ans. Enfin, météo complète à la fin du journal avec Valérie Darmon.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Après des semaines de pluie et de temps maussade sur une bonne partie de la France, enfin le retour du beau temps au cœur des vacances. Le soleil et avec lui les températures qui grimpent. La Drôme et les Alpes de Haute-Provence sont d'ailleurs en vigilance orange canicule. Mais les pensionnaires de ce camping près de Carcassonne le vivent plutôt bien pour le moment. Benjamin Peter.
On va dans la piscine, on se baigne avec le ballon, on se met avec ma sœur.
Et on s'amuse !
Camille et Léo sont au frais dans la piscine du camping. Il faut dire qu'à l'extérieur, il fait déjà plus de 35 degrés. Une bonne nouvelle pour José, leur papa.
Ça fait du bien. On en manquait. Le soleil, de la chaleur. Parce que nous, on vient de la région de la Touraine, donc ces derniers mois, c'était pas trop le soleil. Au départ, on devait aller en Normandie. Et puis là, du coup, on a changé nos programmes. On va aller dans le sud. On a bien fait.
Cathy et son mari reviennent de 23 km en vélo, éprouvant par ce temps. Alors, ils envisagent de remonter vers le nord, vers le frais.
Nous, on fuit le soleil. Alors, encore demain, et puis après, on recommence à remonter. Nous, c'est principalement le sport, donc le soleil, c'est pas top.
Pour Olivier, le gérant du camping Malolia à Villemostoussou, le beau temps de ces derniers jours leur a permis de faire le plein.
On est passé quand même entre les gouttes quelques nuits et quelques journées de pluie, mais ça n'a pas été la catastrophe. Et du coup, vu qu'on est proche de Carcassonne, de la cité et du canal du Midi, les gens ont pu quand même bouger, etc. Et ils sont pourtant restés, donc il y en a qui ont prolongé leur séjour parce qu'il faisait beau et qu'il faisait meilleur.
Et beaucoup de leurs clients leur confiaient qu'ils avaient décidé au dernier moment de passer leurs vacances dans le sud pour échapper à la météo maussade de ces dernières semaines partout ailleurs. À Villemostoussou, dans l'Aude, Benjamin Peter, Europe 1.
Un temps estival donc qui devrait accompagner les voyageurs. Ce week-end, beaucoup de monde attendu dans les gares, sur les routes pour le week-end du 15 août, ce qui ne va pas sans poser de questions à la SNCF. Ce sera un test grandeur nature vis-à-vis du pass sanitaire. Beaucoup de monde à contrôler et peut-être même des opposants à ce fameux pass qu'il faudra calmer. C'est ce que redoute Frédéric Fournier, numéro 3 de l'UNSA Ferroviaire.
Il s'agira là d'un exercice grandeur nature à grande échelle avec un flux de voyageurs bien plus important. On est plutôt confiant puisque les clients se prêtent volontiers à l'exercice. La crainte de l'UNSA Ferroviaire, c'est que, comme vous le savez, il y a un mouvement de contestation contre ce pass sanitaire et on est évidemment extrêmement vigilant à ce que les personnes qui participent à ce mouvement de contestation pourraient utiliser comme une tribune finalement le passage devant ce dispositif de contrôle des passes sanitaires à SNCF et rentrer en conflictualité avec les salariés chargés de contrôler ces passes sanitaires aujourd'hui.
Le numéro 3 de l'UNSA Ferroviaire au micro d'Olivier Samin. Midi 34 sur Europe 1, la situation aux Antilles, toujours alarmante. L'exécutif met en place tous les moyens pour faire face au pic de l'épidémie. Après un déplacement en Guadeloupe, où le taux d'incidence frôle les 2000 cas pour 100 000 habitants, le ministre des Outre-mer avait été rejoint en Martinique par Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui s'est adressé aux réfractaires à la vaccination en rappelant notamment la jeunesse des patients hospitalisés.
La situation sanitaire, je pèse mes mots, est sans commune mesure avec ce que nous avons pu voir au cours des vagues précédentes et notamment en métropole. On ne ressort pas indemne de la visite de cet hôpital. Les patients sont jeunes. Les patients sont très jeunes. Aux urgences, ils ont 40, 50 ans. En réanimation, ils peuvent avoir 20 ans, 30 ans. Ils ne sont pas forcément atteints de ce qu'on appelle les comorbidités. Ils ne sont pas forcément des grands obèses. Ils n'ont pas forcément d'immunodépression. Ce sont des gens qui étaient en bonne santé il y a quelques jours et qu'aujourd'hui, ils sont sur le ventre, intubés, ventilés dans le coma, dans des services de réanimation. C'est ça, la réalité telle que nous la vivons lorsque nous traversons les couloirs de ces hôpitaux. Et puis surtout, cet hôpital, comme ceux de Guadeloupe, sont remplis de patients qui ne sont pas vaccinés. Il n'y a pas un seul patient vacciné en réanimation à l'hôpital de Fort-de-France. C'est-à-dire que les personnes qui sont ici aujourd'hui avec des masques à oxygène ou avec des sondes d'intubation trachéale, je le dis très simplement, si ces personnes avaient été vaccinées, elles ne seraient pas aujourd'hui à l'hôpital, elles seraient chez elles.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, à peine un Martiniquais sur cinq présente un schéma vaccinal complet. Alors, cette visite sera-t-elle suivie d'effet ? Début de réponse avec le reportage de Florin Ossu, notre correspondant à Fort-de-France en Martinique.
Dès leur arrivée au CHU de Martinique hier, Olivier Véran et Sébastien Lecornu ont été accueillis par plusieurs dizaines de personnels soignants déterminés à poursuivre le combat et à refuser la vaccination. Sylvestre, infirmière, était présente parmi les manifestants. Elle n'a pas l'intention de changer d'avis.
Jusqu'au bout, je ne compte pas me faire vacciner. Jusqu'au bout, je vais rester mobilisée. Il y a d'autres moyens. Je suis axée sur la prévention. Il ne faut pas que les gens arrivent à l'hôpital. Dès les premiers symptômes, il y a de quoi se soigner. Il faut anticiper pour ne pas arriver à cette catastrophe.
Une méfiance vis-à-vis du vaccin, mais aussi vis-à-vis du gouvernement. Et cela, malgré les différentes annonces en Guadeloupe et ici en Martinique, la confiance est brisée, comme l'explique Johan Dupé, chef d'entreprise dans la sécurité.
Le vaccin ne protège pas assez, ou tout court, des contaminations. Si on doit le rappeler, on a de quoi se méfier de l'État français.
Le ministre de la Santé a pourtant tout fait pour affirmer le soutien de l'État aux populations martiniquaises et guadeloupéennes. Olivier Véran a notamment annoncé l'arrivée prochaine de traitements innovants à base d'anticorps monoclonaux.
Florin Ossu, correspondant d'Europe 1 à Fort-de-France en Martinique.
Europe Midi, Simon Rubin.
Midi 36, on marque une pause et on se retrouve pour parler de cette basketteuse française médaillée à Tokyo et qui était enceinte au moment où elle a remporté sa médaille de bronze. Et puis on parlera aussi de Britney Spears qui fait un pas de plus vers la liberté et l'autonomie, la tutelle que son père possédait sur elle, élevée après des années de bataille juridique.
Europe Midi, Simon Rubin.
Midi 38, la suite de votre journal et la fulgurante avancée des talibans qui se poursuit en Afghanistan. Les insurgés ont pris le contrôle de Lashkargah, capitale de la province du sud de l'Afghanistan. Les talibans qui ne rencontrent pour ainsi dire aucune résistance ou presque face à une armée désorganisée. Les États-Unis et le Royaume-Uni vont déployer des militaires pour aider leurs ressortissants à quitter le pays. Hélène Terzian a joint Aurélien Pradier, il est député du Lot et président du groupe d'amitié franco-afghan, désespéré de la situation.
Un regard désespéré et inquiet. La chute de l'Afghanistan semble de plus en plus inexorable. Et puis une forme de désolation, parce qu'au fond, ce à quoi nous assistons, au-delà de la situation afghane, c'est à l'impuissance totale des grandes puissances de l'Occident. Je suis consterné, pour tout vous dire, de voir à quel point il y a une forme de fatalité qui s'est installée dans la situation internationale. Au fond, on compte jour après jour les villes, les districts afghans qui tombent aux mains des talibans. Je suis très inquiet de ce discours qui s'installe où on commence presque à banaliser les talibans. J'entends ici ou là certaines grandes puissances internationales dire au fond que les talibans ne sont pas si terribles que ça. Même si les talibans, pendant quelques mois, vont avancer à pas plus ou moins masqués, ça n'empêchera pas le fait que deviendra ou redeviendra en Afghanistan une base arrière de toutes les formes de terrorisme et de philosophies les plus sombres qui soient pour le monde entier.
Un mois après les inondations historiques dans l'ouest de l'Allemagne qui ont fait près de 200 morts et des dizaines de disparus, une enquête a été ouverte par le parquet de Koblenz pour tenter de comprendre pourquoi le système d'alerte n'a pas fonctionné cette nuit-là. Et c'est l'objet de votre reportage, Hélène Kohl. Vous qui êtes notre correspondante à Berlin, vous êtes retournée sur place, sur cette zone sinistrée qui s'étend sur 50 km le long d'une petite rivière qu'on traverse normalement à pied. Et ce qui frappe avant tout, Hélène, c'est l'ampleur des destructions.
Oui, surtout dans les petits villages au fond de la vallée de la Hare. Les témoins sur place ne parlent d'ailleurs pas d'inondation. Ils disent qu'ils ont été victimes d'un tsunami. 9 mètres de crue en quelques minutes. Les ponts ont été pulvérisés un par un, 60 au total. L'asphalte des routes arrachées. Et à certains endroits, encore, on ne passe qu'avec des véhicules à chenilles ou des engins de chantier. Il y a des trous béants là où des maisons ont été emportées. À Maïchos, par exemple, les habitants ont dû d'abord combler eux-mêmes la chaussée pour permettre l'arrivée des secours, raconte Alina.
Quand on a parlé avec les soldats qui avaient fait des missions en Afghanistan, ils ont dit que c'était pareil ici. Ok, nous ne manquons de rien, personne ne meurt de faim, nous avons de quoi boire, nous avons reçu des tonnes de dons, ce n'est pas la question. Mais en ce qui concerne les destructions, c'est vraiment comme une zone de guerre.
Cette semaine, une commission a chiffré les dégâts. Il y en a pour 30 milliards d'euros. Pour vous donner une idée, les dernières grandes inondations en Allemagne en 2002, dans l'est du pays, avaient fait 9 milliards de dégâts. On pense qu'il faudra au moins 3 ans pour tout reconstruire.
Et Hélène, on en est où un mois plus tard ?
Après les premiers jours de chaos, l'Allemagne s'est mise en ordre de marche, hein, très efficace, grâce au déploiement de l'armée, des services de la protection civile, les pompiers, la police et aussi des milliers de bénévoles, absolument indispensables. Les travaux de déblaiement ont bien avancé. On ne voit presque plus de tas de débris, de carcasses de voitures. Les maisons sinistrées ont été vidées ou rasées. En revanche, l'électricité n'a toujours pas été rétablie partout et le gros problème, c'est l'eau. Pas d'approvisionnement et surtout pas de système d'évacuation des eaux usées. Ça peut durer encore des mois, disent les spécialistes.
Et dernière question, Hélène, comment vivent les sinistrés ?
Certains sont partis chez des amis ou la famille, mais bien souvent, les gens vivent encore sur place, dans les étages supérieurs des maisons, avec des réchauds, en allant remplir des bidons d'eau aux citernes de la Croix-Rouge. Il y a aussi des sanitaires communs et des hangars pleins à craquer de dons. On ne paye rien, on partage tout. Judy Ralil, une jeune Syrienne qui a vécu dans des camps de réfugiés au Proche-Orient, est touchée par la solidarité.
Tout le monde, allemand ou étranger, on est ensemble. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Les gens sont gentils, amicaux et ils essayent de rester forts.
Mais derrière les sourires, les gens sont en pilote automatique, s'inquiète Thomas Putz, un entrepreneur local qui organise l'aide des bénévoles.
Nous sommes encore dans un état de choc, traumatisé. Et puis cette poussière qui rend tout triste et terne, ça pèse sur la santé mentale. Nous avons besoin d'aide. Nous sommes tous très occupés avec les travaux, donc il faut que les gens fassent du porte-à-porte pour nous demander comment ça va et nous prendre en charge.
Les premiers enterrements ont eu lieu cette semaine seulement. Il fallait d'abord déblayer le cimetière, mais de nombreux corps n'ont toujours pas pu être identifiés, ce qui rend évidemment très douloureux le travail de deuil dans la région.
Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 en Allemagne. Si vous qui nous écoutez, vous êtes enceinte ou avez été enceinte, on vous a peut-être fait cette remarque, un brin paternaliste, il faut se reposer, ne pas en faire trop, comme si une femme enceinte était invalide. Eh bien, une basketteuse française incarne le contre-pied parfait à cette image d'Épinal. Marie Guida, elle a été médaillée de bronze à Tokyo en étant enceinte de plusieurs mois.
Oui, il s'agit de Valeriane Ayayi Vukosavievitch. Elle était enceinte de 3 mois et demi précisément pendant ces Jeux. Sa maternité, c'est un choix. Assumer une envie de couple qu'elle avait en tête depuis plus d'un an. Et quand elle a appris la nouvelle, juste avant les Jeux, donc, elle n'a rien voulu changer à sa façon de jouer, ni de s'entraîner. Elle s'est juste confiée à son staff médical, à sa sélectionneuse Valérie Garnier et à quelques joueuses. Les autres, elles, n'ont rien remarqué.
Ça a même surpris mes quelques copines qui étaient au courant, parce qu'elles se disaient « Oh là là, mais des fois tu fais des choses, on se pose la question, est-ce qu'elle y pense ?» Et en fait, j'y pense pas du tout et je pense que c'était beaucoup mieux comme ça. Ça allait très bien, j'étais au meilleur de mon basket. Il y a même un des médecins qui m'a dit qu'il m'avait jamais vu autant en forme, autant épanoui sur un terrain. J'ai pris énormément de plaisir à faire ces compétitions.
Et ce n'est pas fini, elle veut continuer à s'entraîner tant qu'elle le pourra avant de prendre son congé maternité. Tout ça en accord avec son club Basketland qui était au courant de son projet dès le départ. Et aujourd'hui, à travers sa prise de parole, elle espère inspirer d'autres sportives.
C'est un choix, la maternité. Il y a beaucoup de mes coéquipières qui me disent « moi, je ne ferai pas une maternité pendant ma carrière ». Comme il y en a d'autres qui me disent « ah, j'aimerais bien pendant ma carrière faire une petite pause maternité ». Et oui, c'est possible.
Et elle le répète, sa maternité ne sera pas un frein pour sa carrière. Pour preuve, elle aimerait revenir sur les parquets dès l'année prochaine pour le mondial de basket en Australie.
Marie Guida, et on termine ce journal avec une autre femme puissante. Vous connaissez très certainement Britney Spears, la star américaine de la pop, mais cela fait un bout de temps qu'elle n'a plus sorti d'album, et pour cause, elle était sous la tutelle de son père depuis plusieurs années. Son père qui régentait toute sa vie, ses prises de parole publiques, sa manière de vivre, son alimentation. Une emprise dont la chanteuse cherche à se sortir depuis des mois. Et Marion Gauthier, elle est en train d'y parvenir.
Oui, Jamie Spears a accepté hier de renoncer à être le tuteur de sa fille. Déclaration d'intention seulement, il précise qu'il reste des questions en attente, parle de transition en douceur vers un nouveau tuteur sans donner aucune date et se dit victime d'attaques acharnées. Justice est faite pour Britney, a tout de même réagi l'avocat de la chanteuse, placée sous tutelle depuis 2008, après plusieurs séjours en désintoxication et à l'hôpital psychiatrique. À 39 ans, l'interprète de Toxic peut aujourd'hui au moins imaginer une issue favorable à son combat contre son propre père. Plusieurs années qu'elle crie dans le désert, mais ses larmes, en juin dernier, semblent avoir réveillé les juges. Britney Spears pleure alors sur 13 ans de contrôle abusif. Au tribunal, elle affirme qu'on lui a refusé de se faire retirer un stérilet alors qu'elle souhaitait avoir un enfant. Quelques jours plus tard, elle est autorisée à choisir son avocat. Le Free Britney Act est même déposé fin juillet. C'est un projet de loi qui donnerait aux personnes placées sous tutelle un droit de regard sur le choix de leur tuteur. En attendant, l'enquête sur le comportement de M. Spears continue, écrit l'avocat de la star. La transition en douceur n'est pas assurée.
Le récit de Marion Gauthier en direct, midi 46. C'est la fin de ce journal et c'est la météo avec la tendance du jour. Valérie Darmon qui est toujours à la chaleur.
Et oui, et toujours ces vigilances orange canicule en cours pour les Alpes de Haute-Provence. Les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, la Drôme, le Var. Dans le sud-est, les fortes chaleurs qui persistent donc avec 33 à 37 degrés, jusqu'à 40 dans les terres de Provence. De la Bretagne à la frontière belge, 21 à 26 degrés. Du sud-ouest au nord-est, on attend 28 à 32. Côté ciel, du massif central en allant aux Alpes du Nord jusqu'en Bourgogne et Franche-Comté, le ciel qui est variable, des averses qui restent possibles mais qui se limitent au relief, rien à voir avec la situation d'hier bien évidemment, et surtout le reste de la France, le beau temps qui persiste, qui dure jusqu'à ce soir et même tout le week-end d'ailleurs.
Eh bien c'est parfait, merci Valérie Darmon. On marque une pause dans ce journal. Et puis, midi 47, on va se retrouver dans un instant pour parler avec mon invité, Nicolas Offenstadt, historien, de ce mur de Berlin qu'on construisait il y a tout juste 60 ans. A tout de suite sur Europe 1.
Simon Rubin sur Europe 1.
Midi 50, il y a 60 ans, l'Allemagne se réveillait hérissée d'un mur. Un mur qui allait devenir le symbole de l'agitation et des tensions de la deuxième moitié du XXe siècle. 60 ans après la construction du mur de Berlin, nous allons revenir sur ce symbole, cette matérialisation physique de la guerre et du pouvoir. Avec vous, Nicolas Offenstadt, historien à Paris, Panthéon-Sorbonne, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle votre livre, l'un de vos ouvrages, notamment « Le pays disparu sur les traces de la RDA » qui est disponible aux éditions Gallimard. Une première question, cette construction, Hélène Kohl nous le racontait, notre correspondante à Berlin hier, elle a été soudaine. Elle utilisait notamment le témoignage tout récent d'Angela Merkel. Pourquoi a-t-on construit ce mur ?
Écoutez, il y a une raison de fond qui n'est souvent pas assez soulignée, c'est que Berlin était véritablement une passoire pour l'Allemagne de l'Est communiste, c'est-à-dire qu'il y avait énormément d'habitants qui quittaient l'Allemagne de l'Est pour l'Allemagne de l'Ouest en espérant de meilleures conditions de vie, pour retrouver leur famille, pour avoir de nouveaux espoirs politiques. Et donc c'était une véritable hémorragie que l'Allemagne de l'Est n'aurait pas pu supporter à très long terme. Pour vous donner un chiffre éloquent, par exemple pour la seule année 1956, il y a 3000 ingénieurs, donc formés en RDA, qui ont quitté l'Est pour l'Ouest. Donc du coup, pour l'Allemagne de l'Est, c'était un enjeu fondamental d'arrêter l'hémorragie de population. Vous vous rendez compte qu'il y a 3 millions de personnes qui ont quitté l'Est pour l'Ouest entre 1949 et l'érection du mur, justement.
Pour qu'un mur tienne debout, en physique comme en histoire, il faut des forces en action, voire même des forces contraires. Quels sont les rapports de force, justement, qui soutiennent ce mur de Berlin ?
Alors écoutez, il faut aussi rappeler le contexte, c'est qu'on est en pleine guerre froide, parce qu'évidemment, donc ça concerne pas seulement ce que je viens de vous raconter, à savoir les questions inter-allemandes et notamment cette fuite de population, mais c'est aussi un rapport de force entre les États-Unis et l'URSS, qui est aussi évidemment un acteur central de ce qu'on a appelé la crise de Berlin entre 1958 et 1961. Donc Berlin, c'est l'avant-poste de la guerre froide, puisque c'est là que finalement on se trouve face à face les deux blocs, et donc ça a toujours été un symbole central de la guerre froide, c'est là que se jouent les rapports de force. Et c'est là-dessus aussi que Khrouchtchev va jouer, parce qu'il voit une Allemagne de l'Ouest qui est en train de prendre de la puissance, et d'une certaine manière, avec l'ultimatum qu'il va lancer aux Américains et aux Alliés, Berlin sert en quelque sorte de mesure des rapports de force pendant la guerre froide. Donc vous voyez, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau inter-allemand, mais il y a aussi le niveau mondial, en quelque sorte, avec les rapports entre les grandes puissances.
Alors ce mur aujourd'hui, il est tombé et votre travail d'historien dans plusieurs de vos ouvrages montre bien que même s'il est tombé, il est encore là ce mur, notamment dans les têtes.
Oui absolument, c'est une expression qui circule beaucoup en Allemagne, on dit le mur est encore dans les têtes. Et on l'a vu encore récemment, notamment à l'occasion des célébrations de sa chute de 1989. Alors pourquoi ? Mais d'une certaine manière, lorsque le mur est tombé en 1989, lorsque les deux Allemagnes se sont réunifiées, en réalité, ce n'est pas les mêmes sociétés qui fusionnaient. Qu'est-ce qui s'est passé après 1989-90 ? C'est l'Allemagne de l'Ouest, en quelque sorte, donc l'Allemagne capitaliste, libérale, ancrée dans le camp allié, qui a absorbé une Allemagne communiste qui était en déréliction, qui avait des soucis à la fois économiques et qui était affaiblie politiquement. Donc d'une certaine manière, pour les Allemands de l'Est, c'est un système qui s'est imposé à eux. Alors certains en étaient ravis, d'autres moins, certains ont été surpris, ont eu du mal à s'adapter, mais du coup, c'est deux histoires extrêmement différentes. On dit parfois que pour les Allemands de l'Ouest, la réunification, c'est pas grand-chose, à part avoir payé un peu plus d'impôts par certains côtés, mais pour les Allemands de l'Est, c'est un bouleversement complet. C'est un système qui s'effondre, et vous savez, ça a été marqué pour beaucoup d'entre eux aussi par le chômage, par les pertes d'emplois, par la précarité. Et donc, ils ont découvert, en quelque sorte, la société libérale. Du coup, ce n'est pas du tout la même histoire. Et la violence de ce qui a pu se passer dans les années 90 pour beaucoup d'Allemands de l'Est, elle est encore là aujourd'hui. Et ça se marque, vous le savez, puisque c'est un des enjeux politiques aussi importants, par une très forte puissance de l'extrême droite aussi, qui a hérité, en quelque sorte, de ces moments turbulents.
On dit souvent que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Quel récit historique font justement les perdants de ce moment-là ?
Alors, c'est une très bonne question parce que justement, on a souvent raconté l'histoire du mur de Berlin, de sa chute, de la réunification entre les deux Allemagnes, du point de vue de l'Ouest. Donc, en quelque sorte, il y avait toujours le grand méchant, qui était évidemment le régime communiste, autoritaire, dictatorial, ce n'était évidemment pas faux, mais la question n'est pas là. Donc un régime, évidemment, qui était vu uniquement sous ses mauvais aspects, et puis du coup, les Allemands de l'Est étaient un peu réduits, en quelque sorte, à être des pantins ou à être des poupées qui subissaient la dictature. Et donc ce récit, vu par en haut, ce récit d'un totalitarisme autoritaire, ben, ça laissait de côté un petit peu la vie ordinaire des gens. Et donc du coup, il y a beaucoup d'Allemands de l'Est aujourd'hui qui disent ben, « nous, on n'a pas vécu que ça ». On avait d'autres vies, le régime n'était pas là partout, le régime n'était pas aussi oppressif à toutes les époques. Bref, on a eu aussi une vie en dehors de ce qui nous était imposé. Et donc cette vie quotidienne des Allemands de l'Est, beaucoup d'entre eux considèrent qu'elle n'a pas été assez racontée, qu'on a toujours fait un récit d'en haut. Et c'est aussi pour ça qu'il y a parfois des formes de protestation en disant « on voudrait raconter aussi notre histoire telle qu'on l'a vécue ».
Et cette histoire, vous d'ailleurs, vous l'avez retrouvée dans ces ruines, non seulement à Berlin, mais un petit peu partout en ex-Allemagne de l'Est. Ces ruines que vous avez parcourues, des bâtiments abandonnés, quasiment laissés en l'état quoi, encore aujourd'hui.
Oui, ce qui est très frappant, moi j'ai fait un travail, c'est d'abord au début, c'est de me promener en Allemagne de l'Est qui m'a frappé, c'est-à-dire qu'on voit des traces de l'industrie et des institutions politiques, culturelles de l'ex-Allemagne de l'Est à peu près partout. Vous savez, il y a certaines villes de 50 000 habitants où vous avez des centaines de ruines, des centaines d'immeubles, d'usines, d'anciennes maisons de la culture qui sont en friche. Alors pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La principale, c'est que si vous voulez, l'unification, donc après 1990, s'est soldée par la liquidation de nombreuses entreprises socialistes qu'on considérait comme plus rentables, qui avaient perdu aussi les marchés du bloc de l'Est, hein, puisque ce n'est pas seulement l'effondrement de l'Allemagne de l'Est, c'est l'effondrement aussi du bloc soviétique. Et donc, du coup, beaucoup de marchés se sont fermés. Bref, ces entreprises n'ont pas trouvé leur place dans le monde capitaliste et certaines ont été complètement et purement abandonnées par leurs nouveaux propriétaires. Donc, on a des centaines, des milliers de friches qui rappellent cette période-là et qui parfois ont été un peu oubliés parce que les Allemands sur place n'avaient pas forcément envie de revenir sur cette histoire, on voulait aller de l'avant. Bref, effectivement, il y a tout un monde de la ruine d'Allemagne de l'Est qui est encore très frappant aujourd'hui et qui nous montre du coup que pour les Allemands, le sujet est très actuel.
Des ruines qui, alors c'est peut-être vrai davantage à Berlin, commencent aussi à être réinvesties, notamment par une partie de la jeunesse, avec des manifestations culturelles qui s'y organisent. C'est ce que vous avez pu constater vous aussi ?
Oui, tout à fait. Alors, c'est très, évidemment, j'insistais sur l'aspect ruine et tout ce qu'on peut visiter encore. J'étais il n'y a pas longtemps à Chemnitz. J'ai vu encore des usines entières, hein, où on trouvait les archives, des restes de ce qu'était l'économie de la RDA, mais il y en a aussi énormément qui sont récupérés. D'abord parce qu'il y a certaines villes en Allemagne de l'Est qui commencent à être très dynamiques, aussi bien sur le plan universitaire, sur le plan intellectuel, sur le plan économique. C'est le cas de Dresde, c'est le cas de Leipzig en particulier. Et même dans des villes qui ont plus de difficultés, vous avez tout à fait raison, il y a certaines friches qui sont reprises par des jeunes qui en font des œuvres sociales. Il y en a d'autres qui en font évidemment des œuvres artistiques. Donc la friche, c'est aussi un monde très vivant, puisqu'évidemment l'Allemagne est aussi culturellement un pays très dynamique, donc qui se saisit cela. Mais parfois, les villes sont quand même dans une telle difficulté économique et sociale que toutes les friches ne peuvent pas faire l'objet d'un réemploi aussi facile.
Eh bien, merci infiniment, Nicolas Offenstadt, de nous avoir emmenés avec vous, nous promener à travers Berlin, cette ex-Allemagne de l'Est, et à l'ombre d'un mur dont la rémanence et la persistance dans la mémoire de l'Allemagne et du monde ne font aucun doute. Je rappelle votre ouvrage « Le pays disparu sur les traces de la RDA » aux éditions Gallimard. Merci à vous. Il est 12h57 sur Europe 1. Dans un instant, la France bouge. Et puis avant, les infos, bien sûr.